Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clauzier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver après ce week-end, comme chaque jour, sur RMC jusqu'à 15h. C'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clauzier. On est ensemble effectivement jusqu'à 15h sur RMC, sur RMC Story. Abstention record au régional, est-ce que c'est grave? C'est notre question.
Oui, et à 13h, si je vous dis que 44% des produits alimentaires affichent de fausses allégations de santé. Vous savez, ces produits qui vous disent ça ira mieux, vous allez avoir une meilleure digestion, votre système immunitaire sera renforcé. Eh bien, la DGCCRF, c'est-à-dire la Direction Générale de la Consommation et des Fraudes, nous dit que tout ça, ça n'est que mensonge. Vous avez confiance dans ce que vous achetez ou pas? On vous attend au 32-16.
En même temps, quand ça dit ça va vous faire des boucles sublimes, c'est pas forcément vrai.
Toi, tu y as cru, visiblement, ça a marché.
Non, moi, j'ai pas besoin de ça. À 12h50, on va jouer.
Elle a acheté des yaourts pour défriser.
Voilà, et ça a marché. Non, ça n'a pas marché. À 12h50, on va jouer au C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité. Cette semaine, à gagner vos prochaines vacances, vous partez une semaine à 4 ou 6 personnes dans l'un des lieux de vacances Home Air. Vous pourrez choisir votre lieu. Alors, pour remporter ces vacances, vous envoyez dès maintenant JEU par SMS au 732-16. Les régionales n'ont pas déplacé les foules, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ceux qui se sont déplacés pour aller voter hier, pas la peine de faire la queue, il n'y avait personne, même aux heures de pointe. Moi, dans mon bureau de vote, les assesseurs en profitaient pour lire un livre, c'est pour dire 66% d'abstention, un record. Écoutez les explications de Bernard Sananès, il est président de l'Institut d'études et labs.
Ce qui est frappant, c'est l'accélération du phénomène abstentionniste. Et cette abstention, elle est record. Pourquoi? Elle est supérieure de 17 points au régional de 2015. Elle a été supérieure au record d'abstention enregistré pour un scrutin en France hors référendum, les européennes de 2009. Donc on le voit bien, tous les records ont été battus et sans doute qu'à ce phénomène exceptionnel, il y a, comme toujours, une accumulation de raisons. Des raisons conjoncturelles, la défiance politique, des raisons structurelles, la sortie de la crise Covid notamment.
Si on regarde un peu dans le détail, c'est dans le Grand Est qu'on s'est le plus abstenu, à plus de 70%. Si on regarde par classe d'âge, ce sont les jeunes qui se sont, eux, le plus abstenus. 87% des 18-24 ans ne sont pas allés voter contre 40% des 70 ans et plus. En se basant sur le vote au premier tour de la présidentielle 2017, on peut voir que c'est l'électorat des extrêmes qui s'est le moins déplacé. Alors, est-ce que c'est grave? C'est notre question jusqu'à 13h. Laurent, tu dis oui?
Bah oui, je dis que c'est grave parce que le vote, c'est quand même le carburant de la démocratie. Donc quand les gens ne vont plus voter, bah c'est la démocratie qui a du mal à fonctionner, à avancer. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien trouvé de mieux que le vote pour s'exprimer. Parce que si on ne vote pas, bah qu'est-ce qui reste? Il reste la rue, pire, il reste la violence. Donc évidemment, on a tous intérêt à ce que les gens aillent voter. Sauf que bah, les responsables politiques, ils n'ont pas tout fait, c'est le moins qu'on puisse dire cette fois-ci, pour que les gens aillent voter. Et en même temps, moi ça m'a frappé hier soir, comme d'habitude, à chaque fois que le taux de participation baisse, et là hier il n'a pas baissé, il a carrément pris le toboggan, eh ben, on entend les responsables politiques de toutes les formations politiques pleurer des larmes de crocodile sur la démocratie en danger. Sauf que ça fait 20 ans que ça dure, et ça fait 20 tant que personne ne fait rien, et notamment à l'occasion de ces régionales où on nous a tout fait cette fois-ci. Non seulement bah il y avait le Covid, donc on a repoussé la date, non seulement à cause du Covid les candidats n'ont pas pu faire campagne, pas de meeting, très peu de tractage, pas de serrage de main sur les marchés comme d'habitude, mais en plus on a tout fait pour nous cacher les vraies raisons, le véritable intérêt de ces élections régionales. Et après, bah, on pleurniche en disant, bah, voilà, il y a 2 Français sur 3 qui ne sont pas allés voter. Les chiffres que tu as cités sont justes. Mais il faut le dire, là où ça a encore moins voté, tu l'as dit, les jeunes, mais le vote populaire. Et c'est pour cette raison-là que, pour une fois, les votes aux extrêmes ont autant chuté. Et c'est pour ça que le Front National, du coup, le Rassemblement National, pardon, se retrouve aussi bas. Donc oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète.
Tu dis on nous a caché, on nous...
Les responsables politiques. les responsables politiques. Le Rassemblement national nous a fait croire que le sujet majeur de ces régionales, c'était la sécurité. La droite nous a fait croire que ça devait être la primaire de la droite et qu'à l'issue de ces régionales, il y aurait sans doute un ou deux perdants et donc que le gagnant ou des Hauts-de-France ou de l'Île-de-France ou de la région Rhône-Alpes serait le candidat naturel de la droite. Tout le monde, même la gauche nous a fait croire que ces régionales, ce serait une sorte de primaire pour savoir quel candidat de gauche, quel parti de gauche serait le mieux placé pour représenter demain les couleurs de la gauche à la présidentielle. C'est-à-dire qu'on nous a raconté n'importe quoi. Bah, résultat des courses, les gens préféraient aller à la plage ou à la piscine. Et ça ne m'étonne pas.
Emmanuel, toi, plus de 60% d'abstention, bah, ça ne te fait pas peur.
Après cette brillante interview de Laurent Neumann, on peut peut-être passer au 32-16 directement, parce qu'il a défendu tous les points de vue.
Je t'en prie.
Il a défendu tous les points de vue. Il a donné toutes les raisons que je vais évoquer.
Moi, ça m'inquiète.
Mais Laurent, je vais lister toutes les raisons, mais qui sont les mêmes que celles que tu as notées. Et c'est pour ça que moi, ça m'inquiète pas. C'est-à-dire qu'ils se sont tirés tellement de balles dans le pied, si tu veux, que je comprends que les gens n'aillent pas voter. Donc, si tu veux, le seul argument des politiques, c'est de dire la démocratie est en danger quand les gens n'ont pas voté. Mais bande d'abrutis, si vous aviez fait campagne correctement et si vous aviez dit des choses intelligentes, mais les gens seraient allés voter. Quand il y a des trucs intelligents, les gens, ils vont voter. Moi, je suis désolé. Là, effectivement, alors je reviens à tout, alors campagne, effectivement, perturbée, pas de meeting, fiasco des professions de foi, etc. La campagne qui n'a porté que sur des thèmes nationaux. Alors ça, surtout pas les enjeux régionaux. Xavier Bertrand nous a dit, bah oui, moi, c'est mon test pour la présidentielle. Marine Le Pen, elle nous a dit, ah bah, si vous nous confiez 2-3 régions, ce sera un bon test aussi pour voir qu'on est capable ou pas de diriger la France. Aucune compréhension des enjeux sur la vie concrète des citoyens. C'est-à-dire que les gens ne comprennent même plus à quoi ça sert de voter à ces élections. Parce que la réalité, c'est qu'on est dans un système qui est un système profondément étatique. On nous fait croire que les régions et les départements ont quelques pouvoirs. Je rappelle que le budget de l'État, c'est 600 milliards, que le budget des régions, c'est 30 milliards. Donc, nous faire croire qu'il y a des décisions importantes qui sont prises au niveau des régions et des départements, c'est du flan, c'est du pipeau. Et les gens, ils sont pas fous. Ils savent que c'est pas vrai. Ajoutez à ça cette réforme quand même absolument extraordinaire de François Hollande des régions de 2015, ce qui fait qu'alors pour le coup plus personne ne comprend ce que c'est que ça.
C'était pour faire des économies, oui, bah, ça aurait dû te faire plaisir.
Alors, un, on n'a pas fait des économies, ah, et deux, non. Et puis en plus, si tu veux, je pense que personne le millefeuille fait que les gens ne savent plus du tout où sont prises les décisions. Donc quand il y a des enjeux, quand on leur explique pourquoi ils votent, les gens ils viennent voter. La présidentielle de 2017, alors qu'on avait un candidat, pas de représentant de la gauche traditionnelle, pas de représentant de la droite traditionnelle, on a quand même eu un 60, quasiment 80% de participation à l'élection présidentielle. Oui, au deuxième tour.
78 au premier tour.
Oui, mais c'était quand même énorme. Regardez.
Donc en gros, on vote pour les présidentielles, c'est la seule où on comprend quelque chose.
Oui, parce
que
c'est la seule. Exactement, c'est la seule élection à laquelle on comprend quelque chose.
Eh ben écoute, on va voir ça au 32-16. Lisa Marie, bonjour, on peut voter sur les réseaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Abstention record au régional, est-ce que c'est grave? C'est notre question. Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC sur votre téléphone.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16. On est avec Aziz qui nous appelle depuis Rivesaltes, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Aziz.
Bonjour.
Toi, ça te fait honte ce niveau d'abstention?
Ah, c'est même pas une honte, c'est grave ce qui s'est passé hier, c'est très très grave. On s'en rend pas compte, hein. Moi, franchement, pour moi, les abstentionnistes, c'est comme les antivax. C'est un caprice de pays riches, tout simplement.
Ouais.
Ah, c'est intéressant comme comparaison.
Ah ouais, moi, franchement, je compare ça pas. Franchement, on a sûrement l'offre politique la plus large au monde. On peut voter communiste, écologique, même pour les animaux. Et franchement, qu'on se laisse pas le petit doigt pour aller voter, ça me... Moi, j'ai la haine.
Alors, Aziz... Je vais à la liste des arguments que j'ai fournis. Je vais quand même en rajouter un ou deux autres par rapport à ce que tu dis justement. C'est quand même qu'on est dans une ringardise en matière de possibilité de vote qui est terrifiante.
Bien sûr,
c'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler que le vote anticipé,
par correspondance,
etc., on a balayé tout ça d'un revers de main pour nous faire croire, en se drapant dans une espèce de dignité démocratique, etc.
Alors qu'il fallait faire valider sa procuration au commissariat.
Quand même, je peux te répondre là-dessus.
Je pense que quand même, il y a des choses... Enfin, en matière de pratique de vote, je pense qu'il y a aussi des choses à faire.
Je peux te répondre là-dessus. Si tu pars du principe que la cause essentielle de l'abstention... c'est une perte de confiance dans les responsables politiques, Alors là, je vais te dire, si tu ajoutes en plus le vote électronique et que tu crées un doute sur la légitimité du vote ou sur le recueil des du vote, alors là, je vais te dire, plus personne va aller voter. Parce que c'est ça le risque. Moi aussi, je suis pour la modernité, je trouve ça très bien, on peut voter par Internet, etc.
Mais alors, quand tu vois qu'il y a des bureaux de vote qui n'ont même pas pu ouvrir parce qu'il n'y avait pas d'assesseurs, parce qu'il n'y avait rien, etc.
Mais ça, ça dit la crise démocratique, les gens n'ont plus rien à faire. Je peux te raconter juste une petite anecdote, et tant pis si tu te moques de moi. Il se trouve que ce matin, j'ai commencé ma journée comme tous les jours,
au café.
Voilà, au café. Et j'ai discuté un petit peu avec les gens qui étaient là, et notamment mon barman. Et je lui ai dit, mais alors, vous êtes allé voter? Et il m'a dit non, ben pourquoi vous n'êtes pas allé voter? Et il m'a dit, ça a été très simple, c'est le meilleur édito politique que tu puisses faire. Un, les élections régionales, ça ne me concerne pas, ça ne change pas ma vie de tous les jours. Deux, la seule élection qui compte désormais dans ce pays, c'est la présidentielle, j'irai voter dans 10 mois. Et trois, ça fait 250 jours qu'on a le couvre-feu et les confinements, j'avais autre chose à faire dimanche. Ouais. Ben voilà, t'as les trois raisons.
Aziz, ce que tu dis, toi, c'est que finalement, on ne prend pas conscience du privilège que c'est de vivre en démocratie et de voter.
Qu'ils aillent en Chine, t'as un parti unique, tu votes pas. Donc non, mais les gens se rendent pas compte l'importance du vote. Moi, je te prends hier, tu parlais de café. Moi, hier, je suis parti à 8h, j'ai bu mon petit café en face de mon bureau de vote. J'ai voté, j'ai pris ma voiture, je suis pêcheur à la truite. J'ai pris ma canne et j'ai taquiné la truite. Voilà, on peut aller pêcher et voter.
Non mais Aziz,
mais c'est vrai que ça prend 3 minutes d'aller voter. Hein.
Mon papa est né dans une dictature. Donc quand j'ai eu 7 ou 8 ans, il m'emmenait par la main au bureau de vote. Aller voter, c'était le signe que tu étais dans un pays démocratique et que tu avais des droits et donc quelques devoirs aussi. Donc moi je suis choqué comme toi. Sauf que nous, notre job, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi les gens ne sont pas allés voter. Et parmi les raisons qui font qu'ils ne sont pas allés voter, eh bien, il y a des responsabilités partagées. Les gens d'abord ont une responsabilité, eux. C'est quand même d'abord de leur faute s'ils ne vont pas voter. Mais les responsables politiques ont rien fait pour les inciter à aller voter. On ne leur a pas expliqué les enjeux. Bref, il y a plein de raisons.
Alors,
et on sort de mois et de mois de Covid, de couvre-feu, de confinement, etc. Il y a plein de raisons.
Justement, on est avec Sébastien qui nous appelle d'Armentières. Aziz, reste avec nous. On est avec Sébastien. Sébastien, tu ne votes pas du tout. Toi, tu es travailleur indépendant dans le médico-social. Tu ne te sens pas du tout représenté.
Bonjour à tous.
D'abord. Salut Sébastien.
Salut Sébastien.
Non, je me sens pas représenté. Ça, c'est la première raison pour laquelle je vais pas voter. Et puis la seconde, c'est que je pense qu'on a un système démocratique qui est moribond, qu'on a des représentants politiques qui ne pensent qu'à une chose, c'est avoir la place et le plus longtemps possible. Du coup, il y a pas d'idée qu'il faut véhiculer. Et puis si on regarde le nombre de votants, moi je suis content, je fais partie du plus grand parti de France, celui de l'abstention. On peut y ajouter les votes blancs qu'on n'a pas comptabilisés encore une fois. Et on a un système démocratique où celui qui est élu, je pense pas qu'il y en ait un qui ait 10% des voix des votants inscrits dans.
J'ai regardé Sébastien hier, les votes blancs c'est 1,3% de l'ensemble de ceux qui sont allés voter. 1,3%. Mais tu as raison, il y a 33 millions de gens qui ne sont pas allés voter, c'est colossal.
Sébastien, ça fait longtemps que tu ne votes plus, ou ça fait combien tu as déjà voté ou tu n'as jamais voté?
J'ai été très content de voter parce que je pensais que je pourrais influer sur la vie de mon pays. Et puis depuis 30 ans maintenant, je me rends compte qu'on vote à droite, à gauche ou ailleurs, finalement, ça ne change rien à l'histoire, quoi. Il y a pas de changement politique, mais c'est normal puisque prenons Macron par exemple, il a fait 25% au premier tour avec l'abstention qu'il avait, en grosso modo on tombe plus aux alentours de 15% des gens qui ont voté pour lui, donc un vrai choix de 15% de la population. Et forcément, dès qu'il veut mettre en place ses mesures et le programme qu'il avait choisi, il n'est pas légitime puisqu'il ne représente que 15% de la population.
C'est le grand reproche qu'on avait fait à Jacques Chirac, et à mon avis c'est le péché originel. Quand Jacques Chirac en 2002 l'emporte au second tour avec 80% des voix, il fait comme s'il avait été élu par 80% de gens du RPR. Or, pardon, c'était évidemment pas ce qui s'était passé, et c'est peut-être ça le péché originel. Du coup, il s'est passé pas loin de la même chose en 2017.
Merci beaucoup. Vas-y Sébastien, vas-y.
Non, mais en fait, le programme pour lequel il est élu, il n'y a que 15% de la population qui valide. Donc forcément, dès qu'il propose sa première mesure, c'est la taxe carbone, je crois, c'est les gilets jaunes. Et il paye 30 ans de vie politique, Macron. Il ne faut pas lui jeter la pierre qu'à lui, quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que quand on est mal élu, c'est compliqué de mettre
en place. Et puis il y a quand même eu quelques cassures dans l'opinion. Prenez par exemple l'histoire du référendum de 2005, le référendum européen sur lequel les Français avaient dit non et on l'a sorti. Ouais. Ah voilà, je pense qu'il y a eu une trahison majeure. On se rend pas compte à quel point du poison que ça a instillé dans notre vie
démocratique. On nous en parle très souvent au 32-16 pour justifier une abstention. Un grand merci à Aziz et à Sébastien d'avoir été avec nous pour discuter abstention au régional. Dans un instant, on sera avec Bruno Cotrès, politologue, alors certainement le politologue le plus limpide du marché des politologues, le chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. On revient sur RMC.
C'est rare que tu fasses compliments.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chypre.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 15h. On parle des régionales. Abstention record pour ce premier tour. Est-ce que c'est grave pour Laurent Neumann? Oui. Ne pas voter, c'est désarmer la démocratie. Il fait de la. On dirait une poésie, petite phrase. Pour Neumann Le Chypre, non. Présenter des idées aux Français, ils reviendront voter. Ça, c'est plutôt une injonction. Lisa Marie, quelle est la première tendance des votes?
Vous êtes pour le moment 74% à répondre oui. Pour vous, c'est grave cette abstention record aux élections régionales hier.
Et dans un instant, on sera avec Bruno Cotrès, politologue et chercheur au CNRS, mais là, on retourne au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Maude qui nous appelle depuis Nanteuil-les-Maux. Bonjour Maude.
Bonjour.
Maude, toi, tu es déléguée générale dans une association. Est-ce que tu t'es abstenue?
Alors non, je ne me suis pas abstenue, mais pour une raison. Je suis assez d'accord avec Emmanuel Le Chypre, hein, c'est-à-dire que oui, si on faisait des vraies propositions, moi j'irais plus loin, c'est si on entendait et on écoutait vraiment le terrain. Et pourquoi je suis allée voter, c'est uniquement parce que les candidats sur mon canton, dans le cadre de l'association, on interpelle très régulièrement les élus locaux, députés, les parlementaires, le gouvernement. Et les personnes qui étaient candidates ont pris la peine de me recevoir, de m'entendre, de m'écouter, et m'ont fait des propositions si toutefois ils étaient élus. Alors oui, pour ça, je suis allée voter. Après, je suis d'accord avec Emmanuel Le Chypre. Je pense qu'il y a un moment, il y a un manque de propositions, mais de propositions concrètes.
Ouais.
Ouais, ouais.
Sur quoi? Sur le chômage? Sur l'école? Sur les transports?
Sur plein de sujets. On a toujours le sentiment, on écoute toujours les mêmes. Vous avez plein de gens sur le terrain qui ont des idées, des associations. Vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse, mais non, pas vraiment. Après, je pense qu'on est capable en tant qu'association de faire remonter les problèmes de terrain. Mais on nous écoute pas, on nous entend pas. Mmh. Et à partir de là, ça donne pas envie d'aller voter.
Maude, je suis le premier à critiquer la campagne qui vient d'avoir lieu. Alors, c'est vrai qu'il y avait le Covid, etc. Mais c'est vrai que les responsables politiques au plan national nous ont parlé de sujets qui n'avaient rien à voir avec les régionales. Mais sérieusement, est-ce que nous, électeurs, lors des élections locales, on fait l'effort d'aller lire les programmes, lire les propositions, comparer, ou est-ce qu'on se contente de regarder la tête du candidat, éventuellement son étiquette politique? Est-ce qu'on va, nous aussi, au fond des choses? C'est bien, hein, moi, je suis assez d'accord sur la critique des responsables politiques. Quand un match est mauvais, souvent, c'est que les deux équipes n'ont pas été bonnes hein, dans un match de foot. En politique, c'est pareil. Si les participants ne sont pas bons, le match n'est pas bon. À l'arrivée, on finit par ne plus regarder le match à la télé. Mais est-ce que nous, on fait cet effort-là aussi? On est participants de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas juste ceux qui se présentent. C'est aussi nous qui allons voter. Est-ce que nous, on fait cet effort-là, Maude?
Alors, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui le font. Moi, je vois sur le terrain, je vous donne un exemple très concret, une personne en situation de handicap qui avait un problème, le problème suffisait de... Enfin, fallait passer ça par un député qui interpellait le ministre de l'Intérieur sur le sujet. Ouais. Il ne savait pas à quoi servait un député, il ne savait pas pourquoi, il ne le connaissait pas. Il y a un vrai problème de communication aussi. Mais ceci dit, pour les gens de terrain qui prennent la peine de les interpeller, ils prennent la peine de faire des propositions sur des sujets qui sont importants. Des propositions, elles sont peut-être pas toutes bonnes. On peut peut-être travailler, se mettre autour d'une table ensemble. On n'est pas obtus non plus dans nos propositions. Mais les trois quarts d'entre eux ne prennent pas la peine, ne serait-ce que de répondre aux sollicitations.
Il y a de moins en moins de réunions publiques, hein, d'échanges où on peut partager même avec ses élus, faire des propositions.
Non mais en plus...
Un grand merci Maude d'avoir été avec nous. On est avec Bruno Cotrès, politologue chercheur au CNRS. Bonjour Bruno Cotrès.
Bonjour.
Je coupe Emmanuel qui n'est pas
c'est
content.
C'est pas grave.
Un truc. Elle a quand même, elle vous a quand même présenté en disant que sur le marché des politologues, vous étiez le plus fluide et qu'il fallait vous écouter.
Et qu'elle a manifestement particulièrement hâte de vous écouter.
Ben voilà, absolument. Bah, c'est vrai. J'essaie de vendre.
Et c'est rare
je vends les
invités. Autant de compliments.
C'est vrai. D'habitude, je suis extrêmement méchante. Bruno Cotterêts, qu'est-ce que nous disent ces régionales pour la prochaine année pour les présidentielles?
Ça part compliqué à l'issue de ces régionales. Tout le monde en parle. C'est la question de l'abstention. Donc, il y aura à nouveau quand même à s'occuper d'ici la présidentielle, de réfléchir à nouveau. Est-ce qu'on peut quand même pas faire quelque chose pour faciliter le vote des Français? Parce que d'élection en élection, nous voyons ce problème se répéter. Je voudrais souligner qu'aux élections législatives de 2017, c'est pas n'importe quelle élection. Hein, c'est pour élire le législateur. Il y avait l'abstention majoritaire aux deux tours. Incroyable. Donc, il faut pas, on peut pas continuer comme ça avec une élection qui motive tous les 5 ans et puis au bout de sitôt l'élection présidentielle, les spectateurs quittent la salle et puis on attend à nouveau 5 ans. Ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça une démocratie avec des gens qui ne viennent pas élire et voter pour des assemblées, qu'elles soient législatives, départementales, régionales.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Il y a un grand paradoxe quand même parce que les Français majoritairement se plaignent de ne pas avoir la parole, ils se plaignent au fond de ne pouvoir donner leur avis qu'une fois tous les 5 ans, comme vous venez de le dire, mais aux élections intermédiaires sont quand même des occasions de voter, de dire un assentiment ou un mécontentement. Ils ne viennent plus, donc c'est compliqué.
Il y a deux composantes dans l'abstention. Il y a une composante qui est purement de circonstance et on l'a entendu auprès de vos éditeurs. C'est quand on dit je peux pas voter parce que il y a personne qui garde mes enfants, parce que j'avais le petit dernier qui était malade à la maison. Donc il reste à faire des progrès sur cette partie de l'abstention, de faciliter au fond le vote. On va reparler dans les jours qui arrivent du vote par correspondance, ouais. Du vote par électronique. Du vote électronique. Il y a des labos de recherche du CNRS en matière d'informatique qui travaillent aujourd'hui sur la possibilité de sécuriser vraiment le vote électronique. Et puis, une deuxième partie de l'abstention, c'est l'abstention plus structurelle. Et elle, c'est le boulot des partis politiques d'offrir des programmes qui permettent de clarifier le débat pour les citoyens, de leur envoyer des signes grâce auxquels ils peuvent se repérer pour différencier les programmes. Et là, ça donne envie de voter. Donc, il y a ces deux composantes de l'abstention. Il faut faciliter le vote. Et puis ici, il faut aussi mobiliser les électeurs par de belles propositions politiques et des programmes qui sont assez contrastés.
Mais Bruno, on a l'air de trouver ça catastrophique. Mais la réalité, c'est que quand il y a des propositions, il y a des candidats, qu'il y a un vrai enjeu, les gens ils se mobilisent.
Alors donc
c'est pas en France, mais regardez quand même les États-Unis où on n'arrêtait pas de dire les Américains ils votent pas, ils sont désintéressés de la politique. Il y a jamais eu autant de votants que pour la dernière élection présidentielle.
12 points de moins aux États-Unis que à l'élection présidentielle en France de 2017.
Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu un sursaut terrible. On dit 2017. Vous citez les législatives et la présidentielle, mais quand même, il y avait une composante politique, moi, que je trouve importante, qui est de dire, il y avait quand même aucun représentant des grands partis traditionnels au deuxième tour de cette élection présidentielle. Il n'y avait pas les partis de gauche classiques, il n'y avait pas les partis de droite classiques, et même du coup, est-ce que ces électorats de droite classique et de gauche classique se sont déplacés aux législatives? Vous voyez, moi, j'ai
en
tendance.
Fait, j'attire votre attention sur la présidentielle. Aux deux dernières présidentielles, on est passé sous la barre des 80% de participation. Ouais. On n'a que 77% de participation au premier tour de la présidentielle de 2017. Et si on enlève les votes nuls, on tombe même à 75%. Pourtant, l'affiche de ce premier tour de la présidentielle de 2017, elle était assez spectaculaire. Quand il y a sur les rangs, on va dire, du François Fillon, du Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'est quand même une grosse affiche. En 2012, c'était la même chose, alors qu'on avait le match entre deux personnalités aussi contrastées que François Hollande et Nicolas Sarkozy. Donc on voit que même à l'élection présidentielle, il y a aujourd'hui un peu moins de participation qu'au début de la Ve République en particulier. On voit aussi les votes blancs hein, qui augmentent. À la présidentielle de 2017, en 2017, on a eu pratiquement 6 ou 7% de votes blancs au deuxième tour. Et en 2022, on peut redouter aussi une augmentation du vote blanc par des électeurs qui trouveraient que l'affiche ne leur convient pas. En particulier, si on retourne vers un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen en 2022, il y aura sans doute un souci, une problématique de vote blanc notamment parmi des électorats, mettons, de centre-gauche, qui seraient très déçus de ne pas avoir l'un des leurs, ou de centre-droit, qui seraient très déçus de ne pas avoir un des leurs au deuxième tour.
Bruno Cotterêts, ça, c'est ce qui va se passer l'année prochaine. À très court terme, pour ces élections régionales, il y a quand même un sacré problème de légitimité. Je prends l'exemple de Xavier Bertrand, parce que c'est celui qui, a priori, a réalisé un score canon hier au premier tour. Il est aux alentours des 40%. Mais 40% de 30%, ça ne fait jamais que 12% du corps électoral. Est-ce qu'on peut avoir la légitimité de diriger une région de plusieurs millions d'habitants, gérer un budget de plusieurs milliards d'euros en ayant reçu pour légitimité démocratique que l'avis de 12% des électeurs ?
Il est clair que du point de vue purement technique, juridique, la légitimité est incontestable. Celui qui est le gagnant des urnes d'une compétition qui s'est déroulée à la loyale, il est évidemment légitime, ça c'est incontestable. Par contre, il y a un problème de légitimité politique, c'est-à-dire que ce que vous soulignez, à partir d'un faible socle de participation, c'est vrai qu'il revient à ce moment-là aux nouveaux élus de tout faire au cours de leur mandature pour développer des procédures de consultation de la population et s'assurer qu'au fond, il n'y a pas un gap, un écart qui est en train de se produire entre les décisions qu'ils prennent et la réalité sociologique, la réalité politique de leur région. Donc, il leur reviendra, ces nouveaux élus, effectivement, de prendre à bras-le-corps cette problématique pour ne pas avoir de mauvaises surprises un jour et de se réveiller en découvrant qu'il y a une partie importante de la population qui ne se retrouve pas dans leurs décisions.
Merci beaucoup Bruno Cotterêts, politologue, chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, qui était totalement fluide, comme annoncé, d'avoir été avec nous. On vous attend au 32-16. Dans un instant, on sera avec Mickaël depuis Toulouse, qui trouve que les Français sont,
des abrutis.
Lui-même, des abrutis. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Au 32-16, on vous attend, vous, pour parler abstention. Est-ce que c'est grave ou pas, ce niveau d'abstention pour les régionales au-dessus de 66%? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 15h sur RMC, sur RMC Story. Abstention record au premier tour des régionales. On est au-dessus des 66% d'abstention. Est-ce que c'est grave pour Laurent Neumann? Oui, ne pas voter, c'est désarmer la démocratie. Pour Neumann Le Chiffre, non. Présentez des idées, vous les candidats, et vous allez voir, les Français reviendront voter. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chiffre.
32-16. Et on est avec Mickaël qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Salut Mickaël.
Toi, tu es vendeur et alors tu trouves qu'il faut être complètement abruti pour ne pas voter?
Ben, enfin, je sais même pas si le mot est assez fort en fait.
On a compris l'idée.
Ouais, parce que ça commence à bien faire. J'ai l'impression que les Français se cherchent toujours des excuses. Hier, à midi, il y avait un journaliste qui racontait qu'il cherchait même des excuses aux Français pour dire ben, il fait beau, ils vont aller à la plage. Enfin, faut arrêter. On a la chance dans ce pays d'avoir un pouvoir. Ce pouvoir, c'est le vote. Et après, vous voulez pas et que vous êtes. Enfin, j'en ai marre qu'en fait les Français cherchent des excuses. Voilà, c'est surtout ça. Et par contre, au deuxième tour, je suis sûr que ceux qui n'ont pas voté au premier tour vont arriver au deuxième tour, limite en se faisant des selfies pour dire qu'ils ont voté. Mais ça, ça m'insupporte. Je ne suis pas. Ou alors, on fait juste un tour. On fait juste un tour. Et comme ça, au moins, peut-être que les gens vont se dire « Oh !»
Alors, Mickaël, au deuxième tour, il risque d'y avoir un sursaut de participation. Dans les régions où il y a un enjeu. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a 6 ans, en 2015. Entre le premier et le deuxième tour, notamment dans la région PACA, il y a eu un sursaut de près de 9 points de participation entre le premier et le deuxième tour. On va voir ce qui va se passer dimanche. Hein. Mais là où c'est déjà joué, je doute que les gens se précipitent de voter au deuxième tour.
Mickaël, tu parlais de ceux qui n'ont pas voté. On était avec Mohamed qui nous appelle depuis Lyon, qui est expert comptable. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour.
Toi, tu as regardé les programmes de chacun, tu t'es vraiment penché dessus et tu as décidé de ne pas voter.
Tout à fait, oui, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, je fais un constat, malheureusement, la démocratie française est malade. Vous avez des partis traditionnels qui ne proposent plus grand-chose, et puis vous avez des nouveaux partis qui émergent, pareil, hein, par exemple en 2017, moi, j'ai pas voté pour Emmanuel Macron, pardon, et j'ai voté contre un parti d'extrême droite fondé par un pensionnaire de la guerre d'Algérie. Donc voilà, en 2017, j'ai voté contre le Front National. Et hier, j'ai pas voté parce que les programmes proposés, en tout cas pour notre région, ils répondaient pas à mes attentes.
Mais attends, Mohamed, oui. Si je te dis qu'il n'y a pas un pays au monde, il n'y a pas une démocratie au monde où l'offre politique est aussi large que chez nous, de l'extrême droite à l'extrême gauche, même chez les Verts, toi que je sens plutôt de gauche et écolo, oui, t'as toutes les tendances de Verts qui existent sur la palette. Attends, oui. Comment tu n'arrives pas à trouver un candidat qui s'approche de tes convictions?
Alors, au niveau de la gauche, en tout cas pour la région, pour notre région, vous avez par exemple Najat Vallaud-Belkacem, donc une ancienne ministre de François Hollande.
Ouais.
Voilà, donc c'est une ministre qui a défendu donc la loi El Khomri, qui a défendu la déchéance de nationalité, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Donc pour moi, c'est des politiques, on va dire, contre.
Ok, c'est pas ta gauche, c'est pas ta gauche. Okay.
Et puis les Verts, Europe Écologie des Verts, j'ai voté pour eux, pour les municipales, parce que bon, le Olivier Doucet proposait des choses concrètes pour la ville. Donc ouais. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis. Donc il a mis des choses en place. Mais pour les régionales, cette liste verte, en tout cas, moi, pour moi, ils n'ont pas proposé, ils n'ont pas répondu en tout cas aux attentes au niveau régional. Même votre collègue tout à l'heure, il a évoqué que les régions, c'est pas très important, c'est entre 30, on va dire, 60 milliards d'euros de budget, mais quand même, la région, elle s'occupe des lycées, elle s'occupe des infrastructures, des transports, et pour les citoyens, faciliter en tout cas le quotidien des citoyens, ça reste toujours un point positif.
Mais attends, toi qui es de gauche, il y avait aussi le vote aux élections départementales, c'est-à-dire oui. Ceux qui, les départements qui s'occupent de tout l'aspect social, de toutes les aides oui. sociales.
Mais non, c'est pas vrai.
Mais enfin, si, c'est vrai.
Mais non, c'est pas vrai, oui, Laurent. Voulais, c'est de la gestion, mais tout est quand même des. Enfin, je veux dire, ils sont les bras armés d'un État qui décide de tout.
Voilà,
c'est quand même ça la réalité.
Étouffante, en fait, qui. Vous avez en fait, finalement, c'est pas vraiment des élus, c'est des bureaucrates qui appliquent en tout cas les politiques du gouvernement, parce que les régions et les départements, l'argent, leur poids, ils peuvent pas faire face au poids du gouvernement.
Est-ce que t'as pensé, Mohamed, à aller voter blanc?
Parce que bah oui, encore une fois, vous avez en France, le vote blanc ne compte pas. Il faut faire une réforme de la Constitution. Il faut que le vote blanc compte. Et encore une fois, si vous voulez, c'est un problème de légitimité. Votre collègue tout à l'heure, il a parlé. Est-ce que ces élus sont vraiment légitimes? Au niveau régional, on va dire que c'est pas grave. Mais au niveau national, Emmanuel Macron, si par exemple la prochaine fois il se présente aux élections, bon, il va se présenter, j'en suis certain. Mais est-ce que vraiment il aura la légitimité nécessaire pour gouverner la France?
On va juste poser la question, Mohamed, parce que tu es tout sauf un abruti, comme disait Mickaël tout à l'heure, qui parlait des gens qui ne vont pas voter. Mickaël, quand tu entends Mohamed qui a quand même une décision de ne pas voter, extrêmement réfléchie. C'est pas parce qu'il avait piscine.
Non, je suis tout à fait d'accord. Par contre, c'est d'un côté blâmer effectivement ceux qui n'allaient pas voter, mais il faut une remise en question des institutions. C'est-à-dire que le vote blanc, moi je suis pour, est-ce qu'on pourrait pas parler aussi du vote obligatoire? Y a tellement de choses à faire, je me dis, le vote par correspondance, je trouve ça, mais on est en 2022 bientôt. Va peut-être falloir peut-être se bouger le cul un petit peu aussi.
Alors Mickaël, voilà. Moi le vote blanc, je suis à 10 000% favorable.
Donc s'il y a trop de blanc, on revote?
Ah bah non, c'est pas ça. C'est que s'il y a trop de vote blanc, que le quorum n'est pas atteint,
non seulement on revote,
mais tous ceux qui se sont présentés ne peuvent pas se représenter. Il faut trouver d'autres candidats. Bah oui, puisqu'ils n'ont pas réussi à réunir sur leur nom globalement.
Ça peut durer un moment, quoi.
Ah bah oui, mais c'est ça.
Ouais,
pour le coup, c'est la vraie démocratie. En revanche, le vote obligatoire, pardon, on a nos voisins belges qui ont fait ce choix-là. Non seulement on n'arrive pas à le faire appliquer, puisque c'est une amende si tu ne votes pas, mais ils se sont retrouvés en plus avec pendant des mois sans gouvernement. Et à l'arrivée, aujourd'hui, malgré le vote obligatoire,
ceci n'est pas forcément lié.
Vote obligatoire, ils sont comme nous à 50 ou 60% de participation. Donc,
non,
pardon,
mais,
ça ne sert à rien.
Par exemple, Mickaël, c'est intéressant, il parlait de toutes les innovations.
Ouais.
Il n'y a pas que les idées, il y a effectivement les techniques de vote. Et puisque Mickaël, tu évoquais l'idée, ah bah oui, le journaliste qui disait, bah il fait beau, les gens sont partis à la pêche, etc. Pourquoi, par exemple, en France, on voterait pas en semaine? Pourquoi on vote toujours? Il y a des tas de pays dans lesquels on vote en semaine.
Pour ne pas nuire à la productivité. Tu sais, ce mot qui t'est si cher.
Sauf que c'est pas vrai. Tu veux dire, ils votent. On vote en semaine pour ne pas nuire à la.
Non,
à la
on vote le week-end pour ne pas nuire à la productivité.
Mais c'est pas
le
même. Mais tout, mais c'est
pas pour la disponibilité, non. Ça a rapport avec la productivité.
Ça a jamais été l'argument d'où tu nous sors cet argument de derrière les fagots là. C'est pas du tout ça. Tu crois que dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, ils sont pas soucieux de la productivité des entreprises? Non. Je pense que c'est. Ça pourrait être aussi. Mais après, est-ce qu'il faut obliger tout le monde à aller voter en semaine? Non, moi je suis d'accord avec Michael. Il y a des tas de choses à faire. Après, ça n'excuse pas le fait que effectivement il y a le débat d'idées, c'est une chose. Mais quand même, la commodité de voter, je pense que ça joue sur quand même quelques points de participation.
Et quand même une petite chose, pardon, tous ceux qui nous vantent la proportionnelle comme solution à la représentativité démocratique, bah hier, je vous signale, les amis, que c'était une élection proportionnelle. Voilà. Alors proportionnel avec une prime majoritaire, mais proportionnel quand même.
T'inquiète pas, personne comprend rien à la proportionnelle.
Bah oui, mais ça veut dire que la proportionnelle n'incite pas les gens à aller
voter. Merci beaucoup Mickaël et Mohamed d'avoir été avec nous au 32-16. On est avec Christophe. Christophe qui est à Arsonnay dans la Sarthe. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Salut, toi, hier, tu ne t'es pas déplacé, Christophe?
Ah non, moi, ça fait des années que je ne me déplace plus.
Pour quelle raison?
Mais parce que quand on voit le niveau du débat politique, rien qu'hier soir sur le plateau de TF1, déjà, ils sont envoyés tous un peu la balle. Il n'y avait que la représentante Europe Écologie des Verts qui, au début de son discours, me plaisait. Pourtant, je suis loin d'être de ce parti-là. Mais à un moment, qu'est-ce qu'elle sort? Les histoires d'emplois fictifs du RN, tout le monde se renvoyait la balle en disant « c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre ». Ils sont tous responsables de cette abstention.
Est-ce que ceux qui ne votent pas ont aussi une petite part de responsabilité?
Alors, forcément, moi, perso, bien sûr que j'ai ma petite part de responsabilité, mais aller voter pour une élection, donc soi-disant régionale et départementale,
okay.
Alors que depuis le début, tout le monde tourne ça vers la présidentielle.
Ouais, comme
Xavier Bertrand, on dit, ouais, s'il gagne la région, il se présente, qu'est-ce qu'on en a à faire? On n'en a rien à faire qu'il se présente à la présidentielle après. Il est là pour représenter sa région.
Ça, c'est vrai que c'est difficile à comprendre pourquoi les politiques ne comprennent pas que quand ils ont ce genre de comportement, ça dégoûte de la politique. Un grand merci, Christophe, d'être venu débattre avec nous dans Neumann Le Chip. Quel résultat définitif, Lisa Marie?
Vous êtes finalement 67% à avoir répondu oui, cette abstention record aux élections régionales. Pour vous, c'est grave.
Eh bien, personne ne va s'abstenir pour le C'est quoi ça?
RMC Neumann Le Chipre.
Le C'est quoi ça?
Et on joue aujourd'hui avec Vanessa qui est à Hermont et Mouloud qui est à Clamart. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut
Vanessa,
à tous.
Tu es la première à avoir envoyé ton SMS. Tu veux jouer avec Laurent ou avec Emmanuel?
Laurent.
Salut.
Alors,
Vanessa.
Laurent, Vanessa et Emmanuel. Qu'est-ce que tu dis, Mouloud?
Non, j'ai rien dit.
Il a dit son prénom. C'est bon, ça nous fait un point.
C'est Vanessa qui me disait bonjour.
Pardon, autant Attends. Pour moi, Mouloud, je te dis donc que toi, tu es avec Emmanuel.
Allez,
on joue
Mouloud.
Pour gagner une semaine de vacances dans les villages. Vacances Homme-Air, une semaine pour 4 à 6 personnes quand même. Ça fait du monde à emmener. Première question entre Vanessa et Mouloud. Vous buzzez avec votre prénom avant de donner votre réponse. Quelle équipe affrontera l'équipe de France de football mercredi pour le dernier
Mouloud.
Match Mouloud. Mouloud, Mouloud.
La Hongrie.
Non,
mercredi.
Oui,
Vanessa,
Mouloud, t'as parlé trop vite.
Et la Hongrie, c'est fait, d'après ce que j'ai suivi.
Bravo, Vanessa.
Question entre Laurent et Emmanuel. En quelle année a été créée la fête de la musique?
1981. Enfin, 82, la première.
Non,
mais c'était...
Non.
Avec Jacques Lang.
1983.
Alors, c'est 82 sur ma feuille.
Bah oui, parce que ça a été le gouvernement. Non, mais bah attends, ils ont décidé
80.
En 81.
Oui, il a dit 81.
Mais ils ont été élus après, donc c'est forcément 82.
Je donne le point à Emmanuel Laurent.
Excuse-moi. Elle a été créée en 82, mais la première était en 82.
Non, elle a été créée en 81 et la première était en 82. Alors, il dit n'importe quoi.
Je n'en sais rien, donc ils vont vérifier en régie. Et la réponse que j'ai sur ma feuille, c'est 82.
Donc, c'est le point
pour l'instant.
C'est pour nous, Mouloud. C'est pour nous.
On va à Emmanuel.
Non, mais il a dit 81. Tu peux pas lui donner le point.
Je t'ai dit 81. Ça a été créé et c'est la. Ils ont été élus en mai 80, ils ne pouvaient pas la faire en 80.
Est-ce que vous pourriez ne pas utiliser toute la
clé? Il a raison.
Merci Mouloud. Mouloud.
Question entre Vanessa et Mouloud. Quelle épreuve passe à partir d'aujourd'hui les terminales en bac général?
Allez Vanessa.
Pensez, le bac, Mouloud, les épreuves,
Mouloud,
vas-y.
Vanessa.
Le Mouloud.
La philosophie.
Non, Vanessa.
Ah, j'aurais dit le français aussi.
Oui, non, c'est ça.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
Bon. Non, c'est le grand oral à partir d'aujourd'hui. Question.
Attends, mais c'est en français.
Non, c'est toutes les matières. Ça non, peut
le
être,
grand
ça
oral, c'est en français.
C'est pas, arrête. Tu commences très mal la semaine.
Allez.
Question entre Laurent et Emmanuel. Après Facebook, Twitter, Snapchat, sur quel réseau social est désormais Manu.
TikTok.
Super Manu.
Et c'est qui?
M'en fous, j'ai dit TikTok.
Ah oui, c'est le seul réseau social qui manquait, quoi. Alors, la question, c'est sur quel réseau social est désormais présente la police nationale sur
Vanessa,
TikTok.
Quelque chose me dit qu'ils se sont ligués pour que tu n'aies pas ton voyage.
Non, j'ai écouté la question.
Ah, si,
bout.
Je les connais, moi, ils se mettent d'accord avant. Ils se mettent d'accord avant, je les connais.
Question, tais-toi. Question entre Vanessa et Mouloud. Initialement prévu jusqu'au 30 juin, il prend fin. Normalement, il prend fin aujourd'hui, enfin depuis hier soir. De quoi s'agit-il ?
Le couvre-feu, Mouloud.
Oui, Mouloud, t'es en troisième point. Question.
J'ai rien compris
entre
la question.
Laurent et Emmanuel, quel chanteur a annoncé la tenue d'une tournée avec son père au printemps 2022 ?
Laurent.
Oui.
Dutron.
De son prénom ?
Thomas.
Oui, absolument.
Oh la vache, celle-là, je ne sais même pas comment je peux la
parce que t'aurais pu dire Alain Souchon, t'aurais pu dire Laurent Voulzy, t'aurais pu dire...
Laurent est très fier de lui, mais ça ne change rien, c'est Mouloud
qui gagne. Mais attends, on a le temps encore, comment ça s'est dit?
Parce qu'il a 3 points et c'est lui qui gagne les vacances dans les villages.
Mouloud, il faut que t'emmènes Vanessa en vacances.
Homme air pour 4 à 6 personnes.
Vanessa,
et on me dit dans l'oreille que c'est bien 82 et donc que Laurent Neumann, tu
as... Non, 82, c'est France-Allemagne, ça n'a rien à voir.
Quel relou. Allez, merci beaucoup Mouloud et Vanessa d'avoir été avec nous. On rejouera demain, c'est quoi ça.
Merci Vanessa, bravo Mouloud.
C'est quoi ça sur RMC avec Omer. Vacances en mobilhome dans plus de 150 campings villages 4 et 5 étoiles en Europe. Plus d'informations sur omer.fr.
Je vous rassure, on a récupéré Mouloud à qui on a répondu puisqu'il disait allô. Restez avec nous dans un instant. On va parler des produits alimentaires. 44% des produits alimentaires contrôlés par la DGCCRF, c'est la répression des fraudes, affichent de fausses allégations de santé. Alors est-ce que vous avez confiance dans ce que vous mangez? Pour Laurent Neumann, non, la publicité est là pour nous faire rêver, pas pour nous dire la vérité. Pour Emmanuel Chypre, oui, jamais notre alimentation a été aussi contrôlée. On vous attend au 32-16, à tout de suite sur RMC.
Neumann Le Chypre.
Midi 15h sur RMC.